Donald Cuccioletta, bonjour.
Bonjour Louis.
Alors parlons un peu de nouvelles internationales et on va commencer avec la Turquie. Crise politique en Turquie et même une escalade dans le conflit avec l'administration de Donald Trump.
Oui, d'une part, on sait que depuis qu'Erdogan a mis de l'avant des mesures assez sévères, on commence à penser que c'est beaucoup plus une dictature que vraiment une véritable démocratie. Il y a quand même des réformistes à l'intérieur du pays, entre autres, beaucoup de journalistes aussi, puis quelques quotidiens qui critiquent beaucoup les façons de faire d'Erdogan. Donc, c'est une certaine crise politique qui est amorcée en Turquie, mais de l'autre côté aussi que... Ils ont aussi arrêté un Américain qui s'appelle Branderson, que finalement, M. Trump dit « Non, non, il faut le relâcher, il n'est pas coupable de rien, etc. » qui fait qu'il y a un bras de fer au niveau de la diplomatie. Et tout ça ensemble fait que les investisseurs boudent la Turquie. Donc, il y a des crises sur le marché boursier à travers le monde. Les gens ont retiré beaucoup de leurs investissements en Turquie. Moi, c'est sûr que M. Trump a quelque chose à voir dans tout ça.
Ouais.
Et qui fait aussi que l'argent turc, le lira, a baissé de 15% de valeur.
Depuis 15% hier.
C'est énorme. Donc, ça veut dire que l'inflation va augmenter.
Ben oui.
Et donc, la situation en Turquie, disons, va à l'encontre de, on peut dire, les plans politiques et même économiques de M. Erdogan, qui voulait que la Turquie redevienne un peu, on peut dire, l'amorce d'un nouveau empire ottoman. Hein? C'est un peu derrière toute sa politique, ce qu'il veut. Donc, c'est rendu là. Donc, a baissé de 15%, c'est énorme. Les marchés boursiers aussi ont retiré beaucoup de leurs investissements, qui fait que finalement, là, j'ai l'impression, où est-ce que ça va aller tout ça? Il faut voir que c'est pas simplement la crise politique ou la critique qui vient des réformistes à l'intérieur de la Turquie, mais c'est surtout, on peut dire, les positions prises par M. Trump vis-à-vis de la Turquie. Puis il faut pas oublier, à la fin de le régime de M. George W. Bush, et même durant toute l'administration de Barack Obama, les États-Unis avaient vu la Turquie comme l'exemple de la démocratie dans un pays musulman. C'est ça l'idée.
Mmh.
Et petit à petit, Erdogan, il a mis de côté davantage la question de la démocratie, qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que ceux qui les ont soutenus, entre autres les États-Unis, puis ailleurs aussi en Europe, ils regardent ça d'un mauvais œil aujourd'hui, parce que là, de plus en plus, on voit que c'est beaucoup plus une dictature qu'une démocratie en Turquie.
Oui. Bon, parlons de la Ligue nationale de football. Évidemment, normalement, c'est pas le but de cette chronique, mais là, il y a quand même une connotation, je dirais, politique, puisque les joueurs de la Ligue nationale ont recommencé les protestations durant l'hymne national dans les matchs pré-saison.
Oui, tout à fait. Ils ont commencé hier, puis ça va continuer, j'ai l'impression. C'est pas l'ensemble des joueurs, ni des Africains-Américains, ni de certains Blancs, mais en général, on peut dire que ça a recommencé.
Ouais.
Il y a des joueurs qui ont fait comme la Ligue nationale le veut. Finalement, ils ont fait une protestation dans la chambre des joueurs. Ils sont pas sortis pour l'hymne national, mais il y a des gens sur le terrain qui ont levé le poing. Puis ça me fait penser à 68 à Moscou avec John Carlos et Steve Smith, hein, les fameux points noirs, hein, Black Power. Donc ça est revenu sur la ligne des côtés. Les gens, certains joueurs, surtout africains-américains, ont pris le genou en plus. Il y a des joueurs blancs qui ont mis la main sur leur épaule pour les soutenir. Donc ça revient sur le tapis, toute cette question-là. Et cette fois ici, durant les pré-saisons, les gens n'ont pas hué dans la foule.
Ouais.
Ça, c'est l'autre aspect. Parce que durant la saison passée, les gens ont hué, ils ne voulaient pas faire ça. Puis là, il semble, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, effectivement, il semble que la population blanche, parce que la grande majorité des gens qui vont voir les games de football à la Ligue nationale, ce sont des Blancs, on semblait changer de position. Donc, ça revient, ça devient encore un casse-tête. Puis évidemment, M. Trump, sur son compte Twitter, il dit tout le monde qui fait des protestations durant l'hymne national devrait être congédié sans pension.
Ouais. Eh bien, encore la réserve et, n'est-ce pas, la modération de Donald Trump.
Tout à fait.
Bon. Au Yémen, maintenant, une attaque épouvantable de l'Arabie saoudite, soit dit en passant, contre un bus scolaire. 50 morts, des enfants qui ont été blessés gravement. C'est effrayant ce qui s'est passé.
C'est effrayant ce qui s'est passé, puis ça se produit depuis 2004, cette guerre-là.
Oui.
C'est ça la question, on en parle très peu. C'est que le Yémen, présentement, il y a des rebelles, des Houthis, qui finalement veulent renverser le gouvernement en place. Le gouvernement en place soutenu par l'Arabie saoudite et les Houthis soutenus par l'Iran.
Ouais.
Donc, c'est une guerre entre l'Arabie saoudite et l'Iran via des interposés. et puis effectivement qui s'entretuent de bord et d'autre. Et cette fois-ci, évidemment, c'est un autobus scolaire d'enfants outils qui a été bombardé. Bon, évidemment, beaucoup de monde, les pays, le gouvernement Yémen et l'Arabie Saoudite a dit ben c'est parce que les outils utilisent les enfants comme finalement des protections.
Ouais.
Vous voyez? Donc, mais c'est la question de savoir, c'est comment ça se fait depuis ces temps-là, depuis au moins 14 ans, puis on peut dire dans les dernières décennies, vraiment, ça a été vraiment, vraiment, vraiment intense. Où est la communauté internationale pour arrêter cette barbarie-là?
Exactement.
Parce que c'est devenu une barbarie, là.
Ouais. On parle très peu de ce conflit-là. On a beaucoup parlé du conflit en Syrie puis tout ça, mais on parle très, très peu de ce qui se passe au Yémen.
Oui, parce que le Yémen, il est loin. Ouais. Il est au sud de l'Arabie Saoudite.
C'est un pays extrêmement pauvre. C'est un des
ben,
pays les plus pauvres au monde.
Extrêmement pauvre. Ouais. Est-ce qu'il y a du pétrole là? Est-ce qu'il y a un enjeu international? Ouais. Est-ce qu'il y a un enjeu du Moyen-Orient? Non. Mais c'est du monde qui vive, là.
Oui.
Et donc, c'est des massacres, comme on a vu, effectivement, un autobus scolaire de 50 enfants morts puis plusieurs autres blessés.
Oui.
Là, là, ça devient la barbarie. Moi, je qualifie ça de la barbarie. Puis la communauté internationale, ne serait-ce les Nations unies, n'en parle quasiment jamais.
Ben c'est ça. C'est parce qu'il y a deux géants qui sont derrière ce conflit-là.
Tout à fait.
Tu ne veux pas prendre position ni d'un bord ni de l'autre.
Ni de l'autre, exactement. Ouais. Et donc, mais on peut prendre la position de la paix.
Puis de l'humanité
aussi,
ouais.
On essaie toujours de faire un cessez-le-feu entre Israël et ouais. le Gaza. Puis on sait, on peut essayer, puis ça, finalement, ça ne réussit pas toujours, puis ça ne réussit pas quasiment jamais.
Ouais.
Mais dans ce cas ici, on ne met jamais de l'avant un cessez-le-feu. On l'a fait, mais encore, puis c'est pas tellement appliqué. Donc, je pense qu'il faut en parler. Là, il faut que la communauté internationale vraiment s'en occupe, là, parce que là, on est rendu à tuer des enfants dans les autobus scolaires. Là. Écoutez, là.
Bon, et je veux terminer avec les États-Unis et la création de la fameuse force spatiale.
Oui.
La guerre des étoiles n'est plus au cinéma, ça se transporte au Congrès américain, entre autres.
Tout à fait. C'est au Congrès américain. C'est hier le discours du vice-président Mike Pence qui a parlé de ça. Ça fait quelques mois que l'administration Trump veut mettre ça de l'avant. Sous l'administration de George W. Bush, on a fait quelques idées de ça, mais on n'a pas été beaucoup plus loin. Puis celui de Barack Obama, on n'a pas parlé du tout. Mais là, c'est clair que l'administration Trump, via M. le vice-président Mike Pence, a dit « ça nous prend une cinquième force militaire aux États-Unis, c'est les forces spatiales, ça veut dire maintenant c'est la guerre des étoiles. » Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On n'en sait pas plus, mais les spéculations disent c'est de mettre des satellites de guerre militaire. Ça veut dire qu'au bout du compte, c'est de militariser l'espace.
Ouais.
Une chose qu'on n'avait jamais réussi à faire à date, là, on commence à parler de ça, sachant très bien que la Chine et la Russie ont des missiles supersoniques aujourd'hui. Et donc, les États-Unis disent qu'on devrait avoir cette force-là. Ça existe déjà dans l'armée de l'air américaine, ce qui s'appelle Space Command, qui s'occupe de tout ça. Mais là, on va aller beaucoup plus loin.
Ouais.
On veut se spécialiser là-dedans, puis on va voir jusqu'où ça va aller.
OK. Mais pour créer cette nouvelle branche de l'armée, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les étapes là, que l'administration
Trump... Faut aller au Congrès, convaincre le Congrès, parce que c'est eux qui vont payer la note.
Oui.
C'est eux qui vont décider les budgets nécessaires. Présentement, les militaires ne sont pas chauds à l'idée. Les autres, ils trouvent que ça va amener une bureaucratie de plus. On a assez de problèmes comme c'est là de gérer les forces en place présentement. Il ne faut jamais oublier que les États-Unis, c'est une force globale. Ils ont des bases partout, ils ont des forces spéciales partout. Donc, gérer tout ça, c'est énorme. Là, on les impose à une cinquième force, puis là, c'est pas ici dans l'espace, sans nécessairement définir c'est quoi va être les paramètres de tout ça.
Mm-hmm.
C'est simplement des hypothèses ici et là. Puis en plus, mais là, il faut aller au Congrès. Puis le Congrès, ben lui, il faut qu'il débourse. Pas sûr que ça va être fait.
Et débourser combien? Est-ce qu'on a une
idée? Ouf. N'importe quel chiffre que tu peux penser, Louis, ça va aller jusque-là.
Oui.
Ça va être énorme. Ça va être énorme. Quoi qu'on sait qu'ils ont déjà la technologie possible pour mettre en place, mais de là, le structurer, l'organiser.
Oui.
Puis il ne faut pas oublier, si les États-Unis font ça, qu'est-ce que la Chine et la Russie vont faire? Comment vont-ils répondre, eux, à tout ça?
Ouais. Et je voyais Bernie Sanders qui répondait hier, évidemment, qui est un peu plus à gauche que Donald Trump,
on
s'entend, là. Et il disait, il faudrait peut-être soigner les gens qui n'ont pas d'assurance santé aux États-Unis avant de penser à armer l'espace.
Oui, tout à fait. parce que c'est ça. C'est sûr que M. Trump, vous avez vu, le discours de Mike Pence était hier, mais la journée d'avant, il a fait un autre discours, M. Trump, juste un peu avant, pour mettre un peu la mise en place de la chose, quand il a parlé de le retour du NASA.
Ouais.
Ça, c'est l'espace. Ça, c'est l'espace. Et donc, Mike Pence, la journée suivante, arrive et dit, mais maintenant, ça nous prend une force spatiale, les militaires dans l'espace. Donc, ça veut dire militariser tout ça. Puis, je pense que Sanders a tout à fait raison. Hein. Lui, il prêche depuis 2016 l'assurance maladie universelle à la canadienne.
Hein. Oui, exactement.
À la canadienne, c'est ça qu'il veut, lui.
Ouais.
Puis, ça prend de plus en plus, les gens embarquent, hein. Donc, où ça va aller, tout ça, on verra. Ouais. Mais pour l'instant, on est rendu encore avec les militaires dans l'espace, probablement.
Hey, Donald Cucciuletta, ça a été un plaisir de travailler avec toi
aussi.
Cet été. Et puis, peut-être à l'été prochain, sait-on jamais?
Je sais jamais. On va.
Salut, au revoir. Donald Cucciuletta, Nouvelle Internationale.